Bonjour Père Casse-Tête.
Bonjour.
Je suis de la web radio et j'aimerais vous interviewer pour votre mission de délégué diocésain pour le diaconat. Déjà, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, alors je m'appelle donc Hervé Castets, je suis prêtre du diocèse d'Éretax et je suis prêtre depuis 34 ans. Voilà, ordonné prêtre à la cathédrale de Dax le 3 juin 1984, curé de paroisse, la paroisse Saint-André de Port-d'Albret, qui regroupe les paroisses donc de Moliès, de Messanges, d'Azur-Vieux-Boucau, Magesque-Herme et Souston, où je réside.
Est-ce que vous nous parleriez un petit peu de l'histoire du diaconat, s'il vous plaît?
Oui, alors là, le diaconat, c'est le Concile Vatican II. Je vais regarder la date, 1962-1965, qui a réinstauré le diaconat comme ordre permanent dans l'Église latine, après de nombreux siècles où il avait disparu comme tel. Il était en général reçu par les candidats au sacrement de l'ordre quelques mois avant l'ordination presbytérale, c'est ce qui existait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, jusqu'à Vatican II, si vous voulez, dans le diaconat aux origines, par exemple, donc dans le Nouveau Testament, nous avons la lettre de Timothée, chapitre 3, verset 8-6, c'est un témoignage incontestable de la présence des diacres dans la première Église, mais qui ne dit rien de la fonction des diacres. On nous dit ceci, les diacres doivent être dignes, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure, que les diacres soient maris d'une seule femme, qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui exercent bien le ministère du diacre s'acquièrent un beau rang ainsi qu'une grande assurance fondée sur la foi qui est dans le Christ Jésus. Voilà, ça c'est Timothée. On parle des diacres, mais on ne sait pas quelle est leur fonction. Dans les Actes, au chapitre 6, il y a un texte qui est souvent invoqué, qu'on retrouve dans la liturgie d'ordination, je le lis peut-être rapidement. « En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Alors les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit saint et de sagesse. » Nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière, le service de la parole. Cette proposition fut acceptée. On présenta 7 hommes aux apôtres. On pria et on leur imposa les mains. Donc voilà, deuxième texte important. L'activité des disciples et des apôtres, pour résumer, est décrite en termes de diaconia. C'est une constante du Nouveau Testament. À la suite de Jésus, qui se revendique fortement la figure du serviteur de Yahvé, l'activité ou le ministère des acteurs principaux dans les communautés chrétiennes est présentée comme un service. À l'époque, c'était une nouveauté. La société était structurée en personnes dignes qui commandent et en personnes humiliées qui servent. Donc, dans la suite des actes, ces hommes institués n'ont pas exercé ce ministère des tables, mais justement ce ministère de la parole. Et Actes des Apôtres, chapitre 6, justement, n'est pas le texte fondateur du diaconat. Lorsque les communautés chrétiennes se développent, c'est au IIe siècle, si vous voulez, avec la structure de l'évêque, prêtre, diacre, le collège des prêtres, c'est un petit peu comme le Sénat autour de l'évêque, alors que les diacres peuvent avoir un service plus opérationnel, comme mettre en œuvre les intentions de l'évêque, de la communauté, auprès des pauvres, car la vie fraternelle est un des éléments essentiels de la vie en Christ. Alors, il peut arriver qu'un diacre dirige une communauté locale au nom de l'évêque. Donc, après, nous avons la belle époque du diaconat, ça c'est au 3e et 4e siècle, d'accord ? Les activités des diacres sont l'objet de multiples mentions. Les diacres accèdent parfois à des responsabilités importantes. Athanase, c'est le diacre devenu évêque. Léon, il était diacre devenu pape. Ça, c'est un petit peu les diacres importants qui sont restés dans l'histoire de l'Église comme, voilà, comme ayant une responsabilité importante, que ce soit évêque ou pape. Bon, le diaconat qui est un petit peu disparu, hein, un petit peu disparu.
Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il a disparu ou pas du tout, et pourquoi?
Et pourquoi le développement de la religion catholique dans les campagnes a modifié peu à peu le dispositif pastoral par la création de communautés paroissiales avec un prêtre résident. Et autrefois, auparavant, le dispositif était surtout urbain, centré sur l'évêque qui avait à sa disposition le collège des prêtres et des diacres. Et c'est pourquoi les diacres locaux confient de plus en plus ces paroisses à des prêtres, les évêques, voilà. Ils vont confier donc les paroisses à des prêtres et les diacres vont petit à petit disparaître. Hein. Mmh. Et donc pendant quelques siècles, les évêques vont garder ce qu'on appelle un archidiacre qui va assurer le rôle un peu de surintendant de ses biens ou de secrétaire général. Ce fameux diacre, il va avoir une fonction administrative importante et incompatible avec l'exercice du ministère presbytéral. Donc il arrive fréquemment qu'il succède à l'évêque et dans ce cas, il ne reçoit pas d'ordination presbytérale. La relation, la tradition des relations aux pauvres va disparaître petit à petit. Il semble que dans certains cas, cette gestion financière procurait une influence et un pouvoir qui faisait ombrage à d'autres responsables. Certains historiens invoquent également la place grandissante des princes chrétiens dans la distribution du secours aux pauvres, on connaît ça, ou même dans l'apparition des monastères qui vont devenir des lieux d'accueil et de redistribution des biens. Toujours est-il que la fonction diaconale, là où elle demeure, prend de plus en plus exclusivement une figure liturgique qu'elle avait depuis longtemps et gardera en Orient. Et comme le ministère presbytéral est pensé de plus en plus selon un mode sacerdotal, le diacre est situé dans la dépendance du prêtre à qui revient l'essentiel de la symbolique eucharistique. Le diacre devient alors de plus en plus un adjoint liturgique du prêtre en attendant de recevoir lui-même l'ordination sacerdotale. Et donc la restauration du diaconat, c'est un débat sur cette opportunité du diaconat qui va s'ouvrir dans les années 40. Et quelques évêques, un quart d'évêque de France mentionne le diaconat parmi les sujets à traiter pour Vatican II. Bon, c'était pas la majorité à l'époque. Hein. Donc avant Vatican II, voilà, ça va commencer à en parler de nouveau. Comment ça s'est produit? Il y a d'abord une recouverte intellectuelle, avec une meilleure connaissance du Nouveau Testament et des conditions de la première Église. Les études historiques sur les premiers siècles et sur la réflexion des pères de l'Église ont ouvert la curiosité des pères du côté des ministères et des acteurs de liturgie. Des questions pratiques aussi vont être soulevées à propos de la nécessité pour l'Église à disposer de personnes clairement référées à elle et acteurs pour la charité des œuvres d'entraide, en particulier dans le milieu caritatif, surtout en Allemagne, puis en France. Et puis, il y aurait eu un débat sur la mission de l'Église et ses acteurs. Et les prêtres, à l'époque, étaient et apparaissaient comme totalement à part de la société. Et cette prise de conscience fut encore plus forte dans les camps de prisonniers pendant la guerre. Et il y a un livre qui s'appelle « France, pays de mission », qui est écrit en 1940, hein. Il mentionne des diacres comme des moyens pour supplier les apôtres de l'époque, pas assez nombreux pour répondre aux nécessités de la mission. Donc voilà. Donc c'est vers avant le Concile Vatican II, ces trois dimensions, que découverte intellectuelle, ces questions pratiques et cette histoire de l'Église en mission, et où on se dit qu'il y a quand même une place pour le diaconat. Et c'est en 1957, le pape Pie XII qui aborde la question dans un discours consacré à l'apostolat des laïcs. Il nous dit que le diaconat est une fonction ecclésiastique indépendante du sacerdoce. Et même, il juge nécessaire sa restauration. Alors, à l'époque, il disait qu'on n'était pas encore mûr, du moins aujourd'hui. Et c'est 6 ans plus tard, voilà, que le Concile Vatican II va reconnaître cette opportunité du diaconat. Restauration, rétablissement avec Vatican II, 29 octobre 63. Au cours du débat sur l'Église, les pères du Concile répondent très favorablement à la question de l'opportunité d'instaurer le diaconat comme degré distinct et permanent du Saint-Ministère selon les besoins de l'Église. Pour cette décision, un des arguments, ça a été la situation dans les entre guillemets, contrées missionnaires où le nombre trop limité de prêtres réduisait l'influence sur le table de l'Église et provoquait aussi, à une époque où seuls les prêtres donnaient la communion, des attentes interminables qui défiguraient la célébration eucharistique. L'autre argument était, bien sûr, que le diaconat avait une longue histoire dans les premiers temps de l'Église. Donc, il y a eu des débats, hésitations, et petit à petit, pendant Vatican II, ce concile Vatican II, fameux concile, des textes fondamentaux concernant le diaconat se trouvent dans la constitution Lumen Gentium, voilà. Là, il faut aller lire ça, c'est intéressant de lire justement le numéro 29 de Lumen Gentium qui parle le ministère ecclésiastique institué par Dieu est exercé dans la diversité des ordres par ceux qui déjà dans la depuis l'Antiquité on appelle évêques, prêtres et diacres. Voilà. Donc allons lire numéro 29.
Quelles ont été les décisions des évêques français?
L'Assemblée plénière de Lourdes décide en 66 à une très large majorité, le rétablissement du diaconat permanent. Voilà. Après Vatican II, c'est les évêques français qui se sont lancés dans cette affaire-là. En 66, accepté par Rome en 67, et en 68, voyez, l'Assemblée inscrit ce rétablissement dans sa démarche missionnaire, dont les évêques ont accepté de faire cela, de réfléchir cela, et la charte du diaconat sera explicité en 70 dans un texte que l'Assemblée confirme. Ils disent « Les évêques français marquent leur préférence pour les diacres qui quotidiennement en contact des hommes grâce à leur situation familiale et professionnelle puissent en pleine vie témoigner du service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes à l'exemple du Christ. Les premiers diacres ont été choisis en tenant compte de leurs engagements en différents secteurs de la vie des hommes et de leur appartenance à des unités pastorales déjà engagées dans la même mission missionnaire. » Voilà. Bien, ce court texte nous montre, manifeste bien les préoccupations de l'époque pour donc le renouvellement du diaconat. Donc, vous voyez, hein, 66, 67, 70, voilà, ça y est, c'est sur les rails. Et les évêques de France confirment donc en 76, puis en 96, leur souhait d'appeler des diacres et de leur confier la mission décrite, allez voir, en 1970. Voilà.
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui. Savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Est-ce qu'on pourrait aborder un petit peu les femmes dans l'Église par le biais des diaconesses?
Alors, les diaconesses, oui, dans l'histoire et, je dirais, dans l'avenir. Dans le Nouveau Testament, l'existence de diaconesses y est reconnue. Mais leurs fonctions exactes et leur ordination sont quand même très discutées par les spécialistes. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais parmi les difficultés d'interprétation, vient en particulier la question du genre du mot grec « diakonos ». Ainsi, la tobe, la tradition œcuménique biblique, à propos de 1 Timothée 3.11, indique en note « les femmes de diacre ou les diaconesses ». Mais choisir de mettre « les femmes » dans sa traduction, car c'est un mot qui est utilisé, la traduction du passage de la lettre aux Romains, chapitre 16, verset 1, où l'auteur qualifie de qualité phoebé, de diakonos, et clairement diakonès, dont on dit en note que c'est un titre inconnu dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, par contre, parle beaucoup, souvent, de veuve. Et c'est l'autre indécision qui rend actuellement difficile la compréhension de ces textes. Dans les siècles suivants, les diaconesses sont alors attestées, surtout en Église d'Orient. Un texte du milieu du IIIe siècle, où, j'ouvre les guillemets, les diaconesses font leur première apparition dans les documents ecclésiastiques. Donc ce texte du IIIe siècle présente une typologie où l'évêque tient la place de Dieu le Père, le diacre la place du Christ et la diaconesse le Saint-Esprit. Ces diaconesses ont un rôle caritatif et liturgique, en particulier au moment de l'onction corporelle des femmes lors de leur baptême. Donc ça, c'est un texte du IIIe siècle. Donc, dans ce contexte, les diaconesses font partie du clergé, à ce titre, lors des ordinations, on leur impose les mains, au même titre que pour les évêques, les diacres. On peut aussi mentionner l'ordination des diaconesses d'Olympias, voilà, qui a mis ses biens au service de l'Église de Constantinople au IVe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc, on peut retenir, oui, que le ministère diaconesse a bel et bien existé. Il s'est développé de façon inégale dans les diverses parties de l'Église. En 1987, le synode romain consacré aux laïcs dans l'Église et dans le monde, les évêques ont demandé le rétablissement du diaconat féminin en se fondant sur la réalité historique antérieure, ainsi que sur le refus d'une discrimination à l'égard des femmes et sur les besoins actuels de la mission. Chez nous, enfin, l'Église catholique laisse actuellement cette question ouverte. Je me semble que le pape François ouvre un tout petit peu la porte puisqu'il a, semble-t-il, créé une commission à Rome pour réfléchir sur la place des diaconesses dans l'Église.
Comme lui savoir dresser la table, comme lui louer le tablier, se lever chaque jour. Et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui savoir dresser la table, comme lui louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.